Eh bien, je commence maintenant. Et ça marche, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, désolé pour ces quelques minutes d'attente, mais nous avons un des intervenants qui était à distance et magie de la technique. On a eu un petit peu de mal à se connecter. Merci de nous rejoindre. Sur cet atelier, l'intelligence artificielle, une réelle opportunité. C'est formulé comme une question. Les acteurs qui vont intervenir, enfin les intervenants, que ce soit Alain Guillotin, le général Perrotte ou moi-même, on est déjà un petit peu persuadés que c'est une opportunité, mais naturellement, le débat reste ouvert. On va s'efforcer de faire une présentation assez rapide pour pouvoir laisser de la place aux questions, puisque c'est quand même un sujet, et je pense que c'est pour ça que vous êtes là, qui appelle un grand nombre de questions. Alors, je vais commencer par me présenter très très rapidement avant de laisser la parole à mes deux camarades. Donc moi, je suis Chantal Casals, je suis consultante, je suis directrice associée d'un cabinet qui s'appelle Casals & Partners, qui est localisé en région parisienne à Fontenay-sous-Bois. Notre cabinet, il existe depuis 25 ans et depuis 25 ans, on accompagne des clients, nos clients de toute nature en les conseillant sur leur stratégie, en les aidant à définir leur stratégie avec, depuis le début, la volonté de considérer que la technologie était un moyen pour les entreprises, quelles qu'elles soient, de mettre en œuvre des stratégies différenciantes, innovantes, d'aller plus loin. Donc c'est un des points de départ en fait de nos réflexions sur l'intelligence artificielle. Alain.
Bonjour à toutes et tous. Alors en deux mots, donc comme c'est écrit, directeur général de C-Chartres Innovation Numérique, à la base. Alors c'est une structure qui a été créée il y a 20 ans sur une idée qui était de tirer de la fibre optique absolument partout. Alors aujourd'hui ça semble évident à tout le monde, mais je vous rappelle qu'il y a 20 ans France Télécom essaie encore de défendre la fin du Minitel. J'ai rien contre eux, c'est pas le sujet, mais on en est là. Cette histoire de fibre optique et de vitesse et de lumière à la fin par une immense parabole. C'est des outils qui nous permettent de parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. On y reviendra plus tard, puisque effectivement sur les trois personnes, je pense qu'on a tous le même avis. La peur n'évite pas le danger et nous, on a décidé d'être positifs. Mais en tout cas, si ces technos n'avaient pas avancé, on n'aurait rien développé au sein de ces chartes innovation numérique.
Donc, le général Patrick Perrotte est également avec nous. Donc, si ça marche bien, normalement, le général Perrotte devrait pouvoir prendre la parole pour se présenter.
Oui, j'espère que ça fonctionne.
Ça marche.
Donc, je suis le général Patrick Perrotte. Un grand merci à Chantal, au cabinet Casals, pour l'invitation. Je suis heureux d'être avec vous. Alors, je suis le coordonnateur national pour l'intelligence artificielle au sein de la gendarmerie, après un parcours d'officier de gendarmerie, somme toute assez classique, qui allie le champ opérationnel avec des fonctions plutôt de nature scientifique. Je suis également chercheur associé au sein de centres de recherche, que ce soit à l'ANITI à Toulouse ou au 3IA Côte d'Azur en PACA. Et c'est la raison pour laquelle j'occupe la fonction. Effectué un doctorat en IA il y a de ça quelques années dans le champ spécifique de la reconnaissance de locuteurs. Voilà, en quelques mots.
Merci beaucoup et merci pour votre présence. Alors, avant toute chose, la façon dont va se dérouler cette heure et demie, un peu moins maintenant, qu'on va passer ensemble, je vais vous faire une courte introduction pour préciser le champ dont on va parler, en fait. Hein, c'est quoi l'intelligence artificielle, où est-ce qu'on se situe, etc. Et puis après, justement, que ce soit Alain, Patrick, le général Perrotte ou moi-même, nous allons essayer d'illustrer en fait, ce qu'aujourd'hui on peut faire avec de l'intelligence artificielle. On va vous parler de cas concrets, de choses qui existent déjà et de choses qui, compte tenu du contexte technologique actuel, sont accessibles maintenant pour des entreprises de taille petite et moyenne. C'est vraiment le message qu'on va essayer de vous faire passer. Et encore une fois, ce sera vraiment intéressant à la fin de laisser toute la place à vos questions. Alors, de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle ? Alors déjà, on ne parle pas d'un sujet qui date d'hier. On parle d'un sujet qui est extrêmement présent dans la culture populaire. Alors, on parle des robots, naturellement. Je pense que ceux-là, vous les connaissez. Enfin, au moins, les deux duos sont très, très connus. Hein. 2001, Odyssée de l'espace, avec cette peur quand même de l'ordinateur qui prend la place de l'être humain. Cispéo, dans La guerre des étoiles, qui connaît des millions de langages, mais qui n'est pas vraiment capable de se débrouiller correctement dans la vie. Et puis le dernier, qui est un petit peu plus anxiogène, c'est le film Her, où Joaquin Phoenix, je ne me souviens plus du nom du personnage qu'il incarne, tombe amoureux d'un ordinateur derrière lequel il y a une intelligence artificielle qui, naturellement, répond à tout ce qu'il veut, puisque c'est de l'intelligence artificielle et que ce n'est pas une vraie personne qui est en face de lui. Alors, beaucoup de fantasmes, mais aussi une histoire avec des maths. En fait, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de mathématiques. Alors, historiquement, on associe l'intelligence artificielle, la naissance de l'intelligence artificielle à Alan Turing, dont la photo est là. Alan Turing, il est connu notamment parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été le responsable de l'équipe qui a décrypté les machines de codage nazies, donc Enigma. Et il est avéré que grâce à l'action d'Alan Turing, l'invasion de la Grande-Bretagne par l'Allemagne a été évitée. Donc naturellement, c'est donc été un acteur absolument considérable de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pour ça qu'il est connu. Mais en fait, après la guerre, Alan Turing, il a fait deux choses. D'abord, il a quelque part inventé l'ordinateur moderne, la machine de Turing. C'est vraiment l'ancêtre de l'ordinateur tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis, il a également, en tant que mathématicien, mais également en tant que philosophe, réfléchi à la façon dont les ordinateurs, à terme, pourraient remplacer l'être humain, notamment sur un champ qui est la prise de décision. Aujourd'hui, il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques. Le prix qui est décerné aux équipes qui font avancer la recherche en mathématiques tous les ans s'appelle le prix Alan Turing, en hommage à Alan Turing. Le terme intelligence artificielle, il n'existait pas encore à ce moment-là. Il a été trouvé en 1956 par 3-4 chercheurs qui se sont réunis sur un campus. Bon, c'est un événement historique, mais au moment où ça s'est passé, personne n'a rien vu, hein, clairement. 3-4 chercheurs qui se réunissent sur un campus, c'est finalement assez classique. Intelligence artificielle, ou plutôt artificial intelligence. Et c'est là qu'en français, c'est un petit peu compliqué, parce que l'intelligence telle que nous, on la conçoit, inclut la créativité, l'intelligence artificielle, etc. Intelligence, en anglais, ça parle plutôt du traitement de l'information. L'intelligence service, c'est un service d'espionnage qui traite de l'information. Artificial intelligence, c'est la façon artificielle, grâce à l'informatique, pour traiter de l'information. Donc ça date de 1956. Donc voilà, le terme intelligence artificielle, il n'a pas été inventé il y a un an, il a été inventé en 1956. Je passe très très rapidement en 58, le perceptron, alors je passerai pas rapidement, mais ça vaut le coup de s'y arrêter un tout petit peu, c'est Frank Rosenblatt, c'est à la fois un psychologue et un informaticien. Et lui, sa préoccupation, c'est de modéliser la façon dont nous prenons des décisions. Donc il a analysé notre prise de décision comme un psychologue, et ensuite il a essayé de le transformer en équation, et ça a donné le perceptron. Le perceptron, c'est l'ancêtre du neurone artificiel, des réseaux de neurones, etc. Là aussi, c'est peut-être des termes que vous avez lus ou entendus dans la presse. Voilà, c'est des concepts mathématiques qui passent qui datent donc de 1958. Et puis il y en a un qui est connu, enfin, et qui est très très vivant et que je vous invite à suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est Yann LeCun. Yann LeCun, aujourd'hui, c'est le patron de l'intelligence artificielle du groupe Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram. Mais en 1987, jeune doctorant, il soutient une thèse. Alors, j'ai mis le titre, c'est pour rire, hein, rétropropagation du gradient, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Mais là, il pose vraiment les bases de l'apprentissage machine, du machine learning. Et ça aussi, c'est probablement des termes que vous avez entendus. Donc, voilà, depuis 1987, toutes les bases étaient là, tous les concepts étaient là. Et pourtant, en 1987, il ne s'est pas passé grand-chose en termes d'intelligence artificielle. Il y a eu beaucoup de promesses, mais ces promesses n'ont pas été tenues. Et tous ces chercheurs, enfin Yann Lequin et ses collègues, sont un peu partis faire autre chose ailleurs parce qu'on ne pouvait pas appliquer à ce moment-là ces concepts. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1987 qui fait que nous en sommes là aujourd'hui et que l'intelligence artificielle est un sujet digne d'être traité au Congrès de la Fédération des EPL? Eh bien, le big data, un accès illimité aux données. Là, c'est la courbe de progression des données dans le monde. On parle de milliards de téraoctets. Donc, si je ne me trompe pas, c'est des milliards de milliards. Bon, enfin, là, ça dépasse de toute façon l'entendement humain. On est sur des données, des volumes de données qui croissent d'une façon incroyable. Ça croît d'une façon incroyable pour deux raisons. D'une part, Internet... Et tout ce que l'on peut poster, ça s'appelle ce qu'on appelle les données humaines, c'est-à-dire tout ce qui vient du web, des médias sociaux, les vidéos, les mobiles, toutes vos interactions au quotidien avec Internet. Et puis surtout ce qui explose, et ça concerne vraiment plus particulièrement les professionnels que vous êtes, c'est les données industrielles. C'est tout ce qui est capteurs, objets connectés, etc. Je pense qu'on est un certain nombre dans cette pièce à avoir une montre connectée. Montre connectée, elle mesure les battements du cœur et le nombre de pas qu'on fait tous les jours. En soi, ce n'est pas très intéressant. Mais il est bien évident que si on met en commun toutes ces indications, ça va définir peut-être un profil de population intéressant à étudier pour des spécialistes de la santé ou des coachs sportifs, j'en sais rien. Mais voilà, le principe du big data, c'est vraiment celui-là, c'est celui de mettre en commun un grand nombre de données. L'intelligence artificielle, pour s'assurer que ses résultats sont bons, pour l'entraîner, on a besoin de l'entraîner sur des données. En 1987, il n'y avait pas beaucoup de données. Les données, ça coûtait cher. C'était compliqué à créer. Donc, on ne pouvait pas avancer. À partir du moment où le web arrive, naturellement, le nombre de données explose. C'est ce que je vous montre là. Et on va pouvoir commencer à essayer d'appliquer un certain nombre de ces concepts. Donc, accès illimité aux données, explosion des données industrielles, et puis un autre phénomène que là, vous connaissez tous, c'est la puissance des machines en termes de traitement. Depuis 1990, qui est grosso modo le moment où on a commencé à comparer les machines entre elles, les ordinateurs datent d'avant, mais on a commencé à les comparer et à les mesurer sous cet angle-là de façon systématique depuis 1990, la puissance des processeurs, enfin des ordinateurs, a été multipliée par 10 tous les 3 ou 4 ans. Et en même temps, ça s'est miniaturisé. Ce qui fait qu'en 1985, vous aviez un CRE2 qui faisait la une des journaux parce qu'il était capable de traiter 1000 millions d'instructions par seconde. 1000 millions d'instructions par seconde, c'est ce qu'on a mis dans notre poche le jour où on a acheté, enfin pour ceux d'entre nous qui ont acheté un iPhone 4. Donc augmentation de la puissance des ordinateurs et miniaturisation. Aujourd'hui, l'ordinateur le plus puissant fait 1 milliard de milliards d'instructions par seconde. Là encore, c'est comme les volumes de données, ça dépasse l'entendement. On a du mal à voir ce que ça veut dire exactement. Mais ça veut dire que toutes ces données qui sont disponibles aujourd'hui, on va pouvoir les traiter de façon systématique et très très rapide. Et puis, un dernier élément, j'aurais peut-être dû d'ailleurs commencer par ça en termes historiques, c'est la chute des coûts de stockage et de transmission des données. Dans les années 90, au début des années 90, envoyer un fichier à l'autre bout de la planète, ça coûtait très très cher, et le stocker sur son ordinateur, ça coûtait très très cher. pour des raisons là, purement technologiques, au fur et à mesure des années 90, ces prix se sont effondrés pour arriver aujourd'hui à un résultat qui fait qu'au moment où vous achetez un ordinateur personnel, le fait que le disque dur fasse 0,5 teraoctets ou 1 teraoctet ou 2 teraoctets n'est plus tellement si discriminant que ça dans le prix de l'appareil que vous allez acheter. Voilà, donc voilà la différence entre le monde de Yann LeCun, on va dire, en 1987 et le monde de Yann LeCun aujourd'hui. Beaucoup plus de puissance de traitement, un nombre incalculable et infini de données à traiter, et puis la possibilité, parce que ça ne coûte plus rien, de se mettre en réseau très facilement. Et là, aujourd'hui, et on va y revenir tout au long de notre discussion, la grande nouveauté du moment depuis un an, c'est l'arrivée de ChatGPT qui fait qu'aujourd'hui, ce sujet de l'intelligence artificielle est à nouveau sur toutes les lèvres pour les questions qu'il génère, pour les inquiétudes qu'il crée, pour les questions, justement, la question de la FEDEPL, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce qu'il faut y aller, pas y aller? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce phénomène? Là, je vous montre juste, c'est IO Analytics, c'est un institut de sondage américain qui, une fois par trimestre, interview les chefs d'entreprise américains pour leur poser des questions sur leurs préoccupations. Donc aujourd'hui, si vous regardez, on ne parle que de ça, quoi. Vraiment, l'intelligence artificielle est la grande préoccupation du moment. Alors, comment ça marche? Alors, bon, d'abord, je vais faire attention en face de mes deux collègues et surtout du général Perrotte de ne pas dire de bêtises. Et puis, mais je vais être de toute façon très modeste. Dans le temps qui est imparti, il est bien évident qu'on ne va pas pouvoir parler de façon approfondie de la rétropropagation du gradient dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le champ de l'intelligence artificielle, il commence à partir du moment où vous faites de la prédiction grâce à de l'informatique, à des traitements informatiques. Vous traitez du langage grâce à votre ordinateur. Traitement du langage, ça veut dire soit traiter des grandes quantités de langage pour faire des synthèses et des regroupements ou de l'interprétation ou de la traduction, ou bien que vous générez des contenus en texte. À partir du moment où vous faites de la robotique, c'est-à-dire que votre ordinateur commande une machine qui va faire quelque chose de physique, à partir du moment où vous traitez de l'image, et ça, notamment Alain va nous en parler, et à partir du moment où vous optimisez des processus, tout ça grâce à la technologie, on est dans le champ de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on demande à notre ordinateur d'appliquer des raisonnements humains à notre place. Alors, il ne va pas construire sa réflexion de la même façon que la nôtre, mais le champ de l'intelligence artificielle est donc extrêmement large. À l'intérieur de ce sujet, de ce champ très large, très vaste de l'intelligence artificielle, on parle de l'apprentissage machine, c'est-à-dire la possibilité, grâce à des algorithmes, de réentraîner la machine pour qu'elle arrive à un résultat le plus optimisé possible par rapport à nos attentes. L'apprentissage machine, c'est ça. À l'intérieur de cet apprentissage machine, vous avez les réseaux de neurones. Donc les réseaux de neurones, ça fait partie donc des bon, on va passer très très rapidement sur un exemple, mais c'est la possibilité de multiplier des fonctions de décision pour pouvoir justement affiner les décisions, multiplier les probabilités, etc. Les réseaux de neurones, ils vont être beaucoup beaucoup utilisés, notamment dans les applications sur l'image où il y a besoin de beaucoup de puissance et où il y a beaucoup d'occurrences à traiter. Et puis, à la fin, à l'intérieur de ça, vous avez ce qu'on appelle l'apprentissage profond. L'apprentissage profond, ça fait le deep learning. Le deep learning, ça fait plusieurs années qu'on en parle. La grande nouveauté de ChatGPT, c'est que c'est accessible maintenant à partir d'une interface qui est sur Internet. Et peut-être que, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui ont testé ChatGPT dans cette salle? Qui lèvent la main? Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas testé ChatGPT? On va dire plutôt maintenant, d'ailleurs. Voilà. Donc, Donc, on a tous un petit peu essayé. Et puis, certains ont plus essayé que d'autres. On va y revenir. Le machine learning supervisé, c'est vraiment, j'ai des données, je les entraîne pour vérifier que le résultat qui est donné par l'algorithme ressemble à une réalité que je connais. C'est ça, le machine learning supervisé. J'essaie de le traduire en mots le plus clair possible. Donc, je crée une équation de prédiction. Et puis, je vérifie par rapport à des données historiques si ma prédiction aurait été bonne si je l'avais appliquée. Le machine learning non supervisé, alors cette image n'est pas très très parlante, mais en gros, c'est le principe qui conduit à donner beaucoup 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 d'informations à un ordinateur et de le laisser se débrouiller avec pour faire de la classification. L'une des premières expériences qui a été faite dans ce domaine-là, c'était en 2012, c'est Google qui a commencé à entraîner ses machines sur YouTube et qui a donc très rapidement permis à l'intelligence artificielle de reconnaître un chat, parce que sur YouTube, des chats, il y en a plein, et que c'est la première image, la première représentation sur laquelle ils ont fait travailler l'intelligence artificielle. Des très, très, très gros investissements pour arriver à reconnaître un chat. On est d'accord que c'est quand même à la portée d'un enfant de 18 mois hein, de reconnaître un chat, généralement. Mais par contre, c'est naturellement extrêmement puissant et on va forcément y revenir. Les neurones artificiels, alors juste cette image pour vous montrer qu'un neurone artificiel ne ressemble pas à un neurone normal. Hein, un neurone tel qu'on l'a dans notre organisme, c'est sur la gauche. Un neurone artificiel, c'est une fonction mathématique. Et puis, je vais passer très, très vite sur un exemple pour illustrer le sujet des réseaux de neurones, parce que c'est un exemple que chacun d'entre nous connaît et qui a été implémenté à la poste, je pense, aux alentours de 2012. C'est ce qui permet, depuis des années, aux robots de la poste et notamment des centres de tri postaux, de reconnaître des caractères grâce à des réseaux de neurones. Avec une question qui est posé à l'ordinateur, c'est quelle est la probabilité qu'un pixel soit utilisé pour écrire ce caractère. C'est-à-dire que quelle est la probabilité que le pixel P3, par exemple, soit utilisé pour écrire un 0 ou un 1. Et cette probabilité, elle change à chaque fois. Et c'est comme ça que l'on va construire un modèle de reconnaissance optique. Et là encore, j'attire votre attention sur la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Là, ceux d'entre nous qui voient bien, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus myopes ou plus déficients visuels, mais en fait, si on est capable de lire cet écran, sans aucun doute, on reconnaît un 1 en bas. Et pour autant, l'ordinateur, il va beaucoup hésiter puisque vous voyez, il se demande si c'est pas un 7, si c'est pas un 6, si c'est pas un 3. Puis finalement, quand même, il arrive au résultat, au fait que c'est un 1. Nous, on a tous reconnu au premier coup d'œil que c'était un 1. En revanche, à côté, le 7, il reconnaît au premier coup d'œil, et là, je c'est pas le bon terme, que c'est un 7, alors que, à titre personnel, je trouve que c'est pas très bien écrit. Et c'est la grande différence entre notre façon à nous de construire une décision, une lecture, une prise de décision, et celle aujourd'hui de l'intelligence artificielle qu'il faut avoir en tête au moment où on va se lancer dans des expérimentations. On va revenir en conclusion à la fin sur ChatGPT. Hein. Donc ChatGPT, il a fallu 3 ans et demi à Netflix pour arriver à 1 million d'utilisateurs. Il a fallu 5 jours à ChatGPT pour atteindre 1 million d'utilisateurs. C'est aujourd'hui, ça date de septembre, hein, ça a peut-être bougé depuis. C'est aujourd'hui le 16e site mondial. Le 90 milliards de dollars de capitalisation, vous avez peut-être suivi d'ailleurs qu'il y a eu des allers-retours en termes de gouvernance, mais c'est un phénomène, et c'est un phénomène qu'il faut comprendre, qu'il faut être en mesure d'expliquer, parce qu'il va avoir des implications probablement très très profondes dans les années à venir. Alors avant d'en arriver là... on va revenir. Donc, j'ai passé très très rapidement du temps tout à l'heure sur les usages. Moi, je vais commencer par vous donner un tout petit exemple très simple d'une application d'intelligence artificielle dans le domaine d'une collectivité locale. Puis après, je passerai la parole à Alain qui va vous donner des exemples beaucoup plus sophistiqués et puis au général Perrotte qui naturellement va nous expliquer comment l'intelligence artificielle est utilisée au sein d'une institution comme la Gendarmerie nationale. Alors moi, mon exemple de cas simple, je ne suis pas allée le chercher très loin, hein, Fontenay-sous-Bois, c'est la ville où j'habite. Il y a une régie du chauffage urbain dont le directeur général d'ailleurs est un petit peu connu par le mouvement des EPL parce qu'il est également directeur général de la SPL Marnebois, c'est François Bourvic. Cette régie du chauffage urbain est très très importante parce qu'elle chauffe un Fontenaisien sur deux et tous les immeubles, pour ceux qui connaissent Fontenay-sous-Bois et les très beaux abords de la 86, ça chauffe également les bureaux à Val-de-Fontenay. Comme toutes les entreprises dans le monde de l'énergie, naturellement, les années 2020, 2021, 2022, 2023 sont difficiles à vivre. Et donc, naturellement, la régie du chauffage urbain, je vais l'appeler la RCU maintenant, cherchait des solutions pour améliorer le confort de ses usagers dans une période où les prix du gaz faisaient un yo-yo infernal, etc. Les prix de l'électricité également, sachant qu'on est en cogénération gaz-électricité. Donc, c'était très, très compliqué de gérer la RCU pendant cette période-là. Donc, la décision qui est prise, c'est d'une part de passer en géothermie. Bon, mais ça, naturellement, c'est un temps long. Et puis de chercher des solutions à mettre en œuvre très très rapidement pour piloter le confort thermique dans les grands ensembles d'habitations. On n'est pas forcément là sur l'immeuble de bureau, mais sur les grands ensembles. Voilà, donc très important, un point de départ pour commencer, ça doit être une question simple que vous êtes capable de formuler. J'ai un problème, est-ce que l'intelligence artificielle peut le résoudre ? Comment améliorer le confort thermique de grands ensembles d'habitations ? Quelle est la problématique ? C'est que, à partir du moment où on vit à plus de deux dans un foyer, il y en a forcément un qui, de temps en temps, a chaud et pendant que l'autre a froid. C'est incontournable. Donc, il faut sortir du ressenti trop froid, trop chaud quand on gère du chauffage, parce que sinon, on passe son temps à répondre, à créer de l'insatisfaction. Et la réponse, c'est on va tout mesurer, comme ça on va essayer d'améliorer réellement le confort thermique des bâtiments. La solution, elle a été proposée par une entreprise qui est localisée à Paris, 8 collaborateurs, donc on n'est pas dans la Silicon Valley, on n'est pas sur des entreprises énormes. Cette entreprise, elle s'appelle Efficap Énergie. Et elle crée des modèles de gestion pour améliorer le confort thermique des immeubles d'habitation. C'est sa spécialité. Dans le cas de Fontenay et des copropriétés et des immeubles qui sont concernés, le retour sur investissement est inférieur à un an. Naturellement, ça ne remplace pas la rénovation thermique des bâtiments, hein, c'est pas le but, hein, mais par contre, c'est un complément qui permet d'améliorer les choses en attendant. Et je le dis tout particulièrement devant vous, parce que ça ne peut pas vous laisser indifférent, dans le cas de Fontenay, la solution a été financée aux alentours de 30% par des dispositifs de type certificat d'économie d'énergie. Donc, c'est pas très coûteux au départ, et en plus, c'est finançable, pour partie. Et la solution, là, voilà, vous avez des sondes, hein, donc c'est les fameuses données industrielles dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont localisées dans chacun des immeubles. Les données sont envoyées en temps réel vers un ordinateur, centre de calcul d'éco-conduite, qui mixe ça avec des prévisions météo, avec des paramètres liés à l'inertie thermique des bâtiments, avec des historiques, et qui renvoie à partir d'algorithmes des corrections, des commandes vers un automate qui va réguler les chaudières à l'intérieur de l'immeuble. En entrée, c'est les données que je viens de vous dire. En sortie, vous avez une commande donc, qui est envoyée vers l'automate qui régule la chaudière. Et puis, vous avez aussi, en bonus, mais ce n'est pas neutre, la visualisation en temps réel des consommations. Le résultat, c'est 10% d'économie de décembre à mars et 30% en début et en fin de saison. Alors, je ne suis pas climaticienne, mais on s'en doute un petit peu. Les intersaisons sont les moments les plus difficiles à réguler en termes de chauffage, puisqu'il peut faire froid la nuit et quand même très, très chaud en journée. Donc, 30% d'économie en début et en fin de saison. C'est une solution qui a été déployée extrêmement rapidement. Ça paraît tellement simple qu'on en oublie que c'est de l'intelligence artificielle, mais ça me paraissait important de commencer par une application simple et compréhensible avant que mes collègues partent dans des choses beaucoup plus sophistiquées. Donc je vais passer la parole à Alain. Moi, j'ai décrit une opportunité concernant la régie du chauffage urbain de Fontenay. Dans le cas de Chartres Innovation Numérique, quelles opportunités ont-elles été trouvées grâce à l'intelligence artificielle ?
Alors, on aurait pu vous prendre plusieurs cas d'espèce. On a essayé de prendre une utilisation un petit peu fun. Donc, je vous rassure, il n'y a que deux slides et après, on passera sur une vidéo. Voilà, donc c'est Chartres Innovation Numérique, c'est une SEM créée en décembre 2004. Alors au départ, c'est une régie et ça devient une SEM par la suite. Donc notre premier métier, c'est d'être opérateur télécom, donc de la fibre, rien que de la fibre. Puis on s'est mis à monter du service dessus, de l'Internet, de la voix, de la sécurité, plein de choses. On travaille énormément en ce moment sur la cybersécurité, c'est-à-dire que on y reviendra peut-être, mais travailler sur l'IA sans penser sécurité, je pense que c'est un peu délicat, même si nous, on a décidé d'être résolument optimiste. Et puis, on essaie d'innover. Et pour innover, il faut sortir des normes, sinon vous n'y venez jamais. Donc, c'est pas une énorme structure. On est 45 ETP. Avec sur les 45 ETP, quand même une dizaine de développeurs. Et puis une quinzaine d'alternants qui travaillent avec nous régulièrement, chaque année. Chiffre d'affaires de 12 millions d'euros, c'est juste pour vous donner la taille de la société. Alors, quand vous faites des télécoms, le drame, c'est que depuis la nuit des temps, les prix baissent. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais le prix du méga, il ne baisse pas, il s'effondre. Donc, vous n'avez pas 15 solutions quand un marché est baissier, ou vous faites du mass market. C'est les cas des grands opérateurs, ou alors vous essayez de diversifier vos activités. Donc, on a travaillé, nous, sur deux axes, tout ce qui tourne autour de la cybersécurité, donc les diagnostics et audits des systèmes d'information, l'accompagnement des structures. Et puis, on fournit des outils de protection, des certifiés ISO 27001, et puis également hébergement de données de santé. On y reviendra peut-être un peu tout à l'heure, parce que sur l'IA, j'aurais peut-être moi, je me passionne pour l'image et mon dernier passage chez l'ophtalmo m'a un peu bouleversé, on va dire. Deuxième diversification, c'est tourner vers plein d'entreprises du territoire ou pourquoi pas vers toutes les EPL de France et de Navarre. Vous êtes les bienvenus. On a notre propre data center et on s'est spécialisé dans tout ce qui est gestion électronique de documents, gestion des workflows sécurisés pour pouvoir dématérialiser tous vos flux d'infos. Mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. L'objet, c'est de vous parler d'IA. Alors, on a la chance de pouvoir avoir une branche innovation dans la structure, ce qui nous a permis de nous intéresser à peu près en 2015, qui est une date charnière. Si vous avez regardé tous les schémas, en 2015, tout change. On est en 24 bientôt. Bref, une petite dizaine d'années, on ne pouvait absolument pas deviner ce qui se passerait aujourd'hui. C'est impossible. Enfin, moi, je n'ai personne en 2015 qui va me dire ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si quelqu'un est capable de vous dire ce qui va se passer dans 10 ans, je vous promets, il faut vraiment boire ses paroles. Alors, on s'est intéressé au sport, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, au développement informatique, puisque nous avions beaucoup de développeurs, et à des outils de supervision de réseau et de trafic. J'y reviens tout de suite sur la slide suivante. Alors, sur le sport, on fait quoi? On a un certain nombre, de, comme dans toutes les collectivités, de stades et de salles de sport sur Chartres. Et on s'est dit qu'au-delà de capter des matchs en 2 caméras, 4 caméras, 6 caméras, 8 caméras, si ça vous fait plaisir, ce qui serait sympa, ce serait de capter des images d'entraînement, quel que soit le niveau des enfants, des adultes ou de professionnels, pour pouvoir retransmettre à des entraîneurs des images de ce qui s'est passé. Un peu à l'instar de ce qui se passe au FC Barcelone, où vous avez 16 salles qui sont installées pour 16 analystes vidéo. Nous n'avons pas ces moyens-là. Et où dès qu'un enfant ou un adulte est remarquable, immédiatement, ce que vous verrez tout à l'heure, c'est stocké pour des décennies et c'est valorisé pour savoir combien coûtera le joueur, puisque je pense que le sport professionnel aujourd'hui, c'est quand même ça. On fait également dans nos développements de l'habillage de statistiques, de chronomètres et de scoring. Me demandez pas comment c'est arrivé, mais aujourd'hui, si vous regardez du basket sur l'équipe 21, tout ce qui, en dehors de l'image, apparaît, sort de chez nous. On n'a absolument pas cherché à faire ça, mais on est venu nous chercher. Moi, tant que je peux vendre, je vends. Et puis, beaucoup plus passionnant, l'intelligence artificielle nous permet, on y travaille aujourd'hui vraiment très très sérieusement, nous permet de suivre les images pour les sites de paris en ligne pour savoir si les athlètes trichent. La question n'est pas de savoir d'ailleurs s'ils trichent, c'est de savoir quand ils trichent. C'est, et pour des sociétés de paris en ligne où vous passez votre temps à faire des paris désormais non pas sur le score à la fin du match, mais sur ce qui va se passer dans les 5 minutes qui suivent, je vous promets que pour eux, c'est des enjeux qui sont absolument énormes. Donc voilà, donc on a fait cette diversification. Alors au départ, nous, les paris en ligne, très honnêtement, on s'en foutait complètement. Mais bon, c'est une nouvelle fois, si on peut aider, pourquoi pas. Sur les développements informatiques, on en a parlé avec Chantal, c'est le choix qu'on a fait de ChatGPT. Encore que j'ai pensé à un truc tout à l'heure, Chantal, c'est que tu as dit que voilà, ça, ChatGPT, pour moi, c'est un truc assez fascinant. Je vais vous donner ma note de maths au bac. Je ne suis pas très fier, mais j'ai eu 1. Donc, pour la feuille, l'effort, le papier et la présence, je pense. J'ai eu 16 en philo. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, ce qui me fascine, c'est pas que ChatGPT sache résoudre une équation du 8e degré. Ce qui me fascine, c'est que je pense que sa copie de philo, elle va mériter 22 sur 20. Et que pour les professeurs, je pense que c'est un vrai problème aujourd'hui. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Alors, nous, pourquoi on se sert de ChatGPT professionnellement? Je vais vous prendre deux exemples. De temps en temps, j'interviens, je fais des interviews dans le monde du handicap. Je vous passe ce détail et j'ai régulièrement pas de temps. Donc, j'avoue, je prépare certaines questions de temps en temps en disant à ChatGPT, est-ce que tu peux me dire combien il y a de gens en fauteuil roulant en France? Très peu d'ailleurs, curieusement, par rapport à ce qu'on pourrait croire. Combien ceci, combien cela? Et puis à la fin, sors-moi 10 questions, s'il te plaît, sur le sujet. Et puis je reprends évidemment ce qu'il m'a dit, parce qu'il dit également des bêtises. Mais en tout cas, on gagne du temps. Bon, ça, c'est une première utilisation. Maintenant, on a une utilisation beaucoup plus professionnelle au sein de notre service informatique. La première chose, pour ceux qui ont été développeurs, ça a été mon cas, ça, même avec un au bac en maths, j'ai fait ça pendant 10 ans, ça a été le cas de Chantal également. Des fois, quand vous développez, il vous manque une virgule, un point virgule au milieu de centaines ou de milliers de lignes de code et votre truc, il tourne en rond, il ne marche pas, enfin bon, c'est une galère et vous ne le trouvez pas, puisque vous l'avez déjà remarqué, si vous faites une faute d'orthographe, vous pouvez lire 200 fois le même texte, vous continuerez de faire cette faute d'orthographe. Donc ChatGPT, sa première utilisation, c'est de chasser nos erreurs de code. Et la deuxième utilisation qui est beaucoup plus intéressante, c'est qu'aujourd'hui, moi, je demande à mes développeurs de transcrire des idées des utilisateurs sans changer les idées des utilisateurs. Donc, le meilleur moyen, c'est pas de coder en inventant quelque chose, c'est de demander à la machine de faire un code en réutilisant les termes utilisés par l'utilisateur. Vous avez tous connu ce phénomène où vous demandiez un rond et où l'informaticien que je suis vous ramenait très fier un carré parce que c'est vachement mieux. Et bien là, au moins, vous posez la question et le code qui va vous être amené, ce sera le code de la question de base. Alors, évidemment, c'est encore assez balbutiant, encore que ça puisse être parfois bluffant sur les codes qui est ramené. Mais ça a un inconvénient pour nous, c'est que nous sommes certifiés 27 001. Donc vous rentrez dans une norme. Donc on utilise cet outil juste pour les démarrages de codage d'application. Et puis au bout d'un moment, il faut rentrer dans des normes, sinon vous n'êtes pas certifié 27 001, y compris sur votre code. Et donc on le garde que pour nos développements en matière d'innovation, où là, il faut absolument sortir de la norme. Troisième utilisation, tout ce qui est supervision de nos infrastructures. Alors c'est un mélange d'outils qu'on a mis à disposition de grandes entreprises comme le Crédit Agricole ou AG2R La Mondiale, par exemple. Pour estimer, je vais commencer par la fin, pour superviser les flux de ces entreprises, notamment savoir si des attaques qui se produisent chez eux sont réellement des dénis de service ou pas des dénis de service, enfin plein de termes techniques dont je ne vais pas vous abreuver. Mais à un moment, vous êtes tous confrontés à un problème, c'est de savoir si le mail qui vous est envoyé, c'est en train de s'accélérer. Est-ce qu'il faut que je l'ouvre ou est-ce qu'il faut que je ne l'ouvre plus ? Il ne faut pas que je l'ouvre. Parce que finalement, est-ce que c'est un mail truqué ou ce n'est pas un mail truqué ? Alors pendant longtemps, on a plongé dans le truc. Maintenant, moi, le premier, il y a des choses que je n'ouvre pas. On me dit pourquoi tu n'as pas ouvert ton mail ? J'ai l'impression que ce n'était pas un bon mail. Eh bien, il faut quand même que vous imaginiez que ces entreprises, à un moment, elles pensent qu'elles sont attaquées tellement elles sont rentrées dans un phénomène de sécurité et elles ne sont pas attaquées. Donc, il faut arriver à savoir si ces flux d'informations sont bons ou pas bons. On utilise l'IA pour faire ça. Et puis, on utilise également l'IA, je prends la ligne du haut, sur des outils qui nous permettent d'estimer les degrés de gravité des pannes. Toutes les nuits, toutes les minutes, à cause des attaques qu'on subit, c'est sans arrêt hein, sur les réseaux. Et encore, nous, on a un tout petit réseau, donc je n'ose pas imaginer les réseaux des grands groupes. Vous avez peut-être suivi qu'en Australie, là, il y a eu une espèce de panne énormissime. Et je ne sais pas quand ça arrivera à l'échelle de la planète, mais la question, ce n'est pas de savoir si ça arrivera, c'est quand ça arrivera. Ces pannes, si vous avez quelqu'un qui est d'astreinte la nuit, toutes les deux minutes, ça va le réveiller, quoi, hein, donc il ne va pas dormir. Donc à un moment, on demande à la machine d'estimer la gravité de la panne. Est-ce que je réveille quelqu'un ou pas ? Voilà, grosso modo, les grandes utilisations qu'on fait de l'IA. Et je pense vraiment qu'on n'est qu'au début de l'histoire. Arrive l'heure du cinéma, ça tombe bien, on est à Cannes. On est à Cannes. On s'est dit tout à l'heure que c'était fascinant parce que c'est la salle de conférence de presse des stars. Alors avec Chantal, on s'est pris pour des stars. Voilà, par exemple. Ouais. Donc, ce que je vais vous montrer, ça concerne du sport. Alors, faut que je le fasse en deux fois. Comment ça se passe? Et puis là, je vais. Alors, avant de vous envoyer l'image, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est les caméras qu'on pose dans les salles. Alors, la vision que vous avez du haut, en fait, c'est quatre caméras qui viennent faire une seule et même image, vous verrez. Et en fait, l'ordinateur va faire ce qu'on appelle un cropping, c'est-à-dire qu'il va suivre non pas le ballon qu'il va complètement oublier, mais suivant des règles de gestion qu'on va lui donner, il va suivre le jeu pour obtenir ce qu'on appelle le plan large d'une captation vidéo. Alors, avec un peu de chance, c'est parti. Voilà. Donc, l'ordinateur en bas, vous pourriez soupçonner, parce que ça bouge de manière assez naturelle, qu'il y a un cadreur derrière cette image, et ce n'est pas du tout le cas. Donc comment ce logiciel fonctionne ? On rentre des centaines, pour ne pas dire des milliers de paramètres. Alors vous pourriez m'inventer un sport où il y a des buts, il y a un filet, il y a quatre joueurs de chaque côté, il y a trois arbitres, il y a des couleurs de maillots différentes. Enfin voilà, vous rentrez plein de données. Et puis ensuite, au fur et à mesure du jeu, vous dites où se placent les joueurs quand il y a une défense, une attaque. Est-ce que les joueurs vont passer des deux côtés ou pas ? Par exemple, dans le cadre du volley, évidemment, les joueurs vont rester chacun d'un côté. Où vont se positionner les arbitres quand il y a un pénalty, une faute, ceci, cela. Et puis, une fois que vous avez rentré tous ces paramètres, vous laissez la machine faire pour savoir si elle a compris le jeu que vous lui avez décrit. Elle ne sait pas si c'est du hand, du volley, du foot. Elle s'en moque complètement. Mais par contre, elle va vous produire l'image qui est en bas. Alors, c'est très sympa pour les télés. Maintenant, je vous reprojette à Barcelone où tous les entraînements sont filmés. Et où cette image que vous avez en bas, qui correspond à des règles de régression qui s'appelle le plan large de la caméra, je ne sais pas si je peux l'arrêter par contre. Oui, je peux l'arrêter. Parce que là, en fait, mon gardien, il est parti. Si tout à coup, vous avez un joueur de génie, eh ben, vous allez pouvoir dire à l'ordinateur, tu me crées une deuxième image qui ne fait que suivre ce joueur de génie. Et pendant 20 ans, vous allez, enfin 10 ans, vous allez emmagasiner les images de Messi ou je ne sais trop qui. J'avoue que je suis un peu nul sur le sujet. Bien. Donc, vous avez une mine de données absolument incroyable et tout à coup arrive le... Alors là, je vais vous faire une parabole. Hein, le site de Paris en ligne. Et quand vous faites du hand, c'est ce qui se passe à ce moment de l'image que j'ai arrêtée. Regardez à gauche, il n'y a plus de gardiens dans les buts. Alors, je ne suis pas allé chercher un truc très compliqué. Hein. C'est l'équipe de Chartres qui joue contre... je ne sais même plus... le PSG. Ouais, en toute simplicité. Donc, c'est un match amical, c'est il y a 2 ans. Non, on est avant le Covid. On est avant le Covid. Depuis, ça a beaucoup encore progressé. Donc, de temps en temps, vous avez des gens qui sortent du terrain parce qu'ils ont pris 2 minutes. Et du coup, l'équipe en face, elle fait sortir son gardien pour faire rentrer un joueur de champ. C'est ce qui s'est passé. Regardez bien sur ma gauche. Dans le but de Chartres, il n'y a plus de gardien. Alors, je vous le dis tout de suite, personne ne va tricher sur cette image. C'est juste pour vous imager le propos. Et à un moment, le joueur va revenir, évidemment, dans le match. Et là, la société de Paris en ligne, elle se pose une question fondamentale. C'est est-ce que ce gardien va mettre la meilleure volonté du monde à rentrer dans son but pour que le but ait lieu ou pas lieu sur une contre-attaque ? Donc, c'est parti. Je vous rassure, personne ne va tricher. Mais la société de Paris en ligne, où tout à coup, paf, il y a 1 minute, il y a un mec qui vient de parier 100 000 euros comme quoi le PSG va mettre un but. Est-ce que le gardien est revenu à temps ? Est-ce qu'il s'est fait un propre coche-pied ? Est-ce qu'on est dans les 10 dernières secondes du match ? Est-ce que, eux, ça les fait pas rire ? Et donc, ils vérifient plein de choses. Alors, évidemment, vous pouvez faire de la VAR, de l'arbitrage sur des images, vous pouvez faire des protocoles commotion cérébrale, vous pouvez faire plein de choses. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est que ce produit par une société israélienne qui s'appelle Pixelot, qu'on intègre en France. Alors, développé au début, ça va vachement vous étonner sur de la reconnaissance de personnes, plutôt sur des lignes de front que sur des terrains de sport. Ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai vu des images où, dans les 5 secondes qui viennent, alors vous voyez, le gardien, là, il s'en va. Là, parce qu'il y a un joueur donc, oui, qui le remplace sur le champ. Dans les 5 secondes qui viennent, l'ordinateur a stocké tellement de phases de jeu qui lui ressemblent, un peu comme la météo, qui sont capables de vous dire ce qui va se passer dans les 5 secondes qui suivent. Ça, je peux vous dire que, en fait, c'est assez flippant. Là, ça devient quand même un vrai problème. Alors, sur les sites de Paris en ligne, ça devient un vrai problème. Parce que qu'est-ce qui vous empêcherait, vous, avec votre ordinateur, d'analyser ce qui est en train de se passer sur le terrain pour savoir ce qui va se passer ? Vous voyez, c'est un peu retour vers le futur, là. Il revient, il court notre gardien. Il ne s'est pas cassé la figure, il n'a pas triché. Voilà. Voilà ce que je peux vous raconter. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que là, on vous le montre sur Chartres PSG, c'est du hand au plus haut niveau, mais on fait exactement la même chose avec des jeunes, quels que soient les sports, sur les terrains. J'ai tenu le timing.
De façon remarquable. Merci beaucoup, Alain. Voilà, donc là encore, hein, une application proche de chez nous, et en plus dans le mouvement des EPL. Je vais maintenant passer la parole au général Perrot, avec la même question. Hein, quelles sont les opportunités, finalement? Enfin, la gendarmerie nationale est un acteur de l'intelligence artificielle. C'est pas un hasard si le général Perrot est là aujourd'hui. Et en quoi y avez-vous trouvé des opportunités, que ce soit dans le domaine de la sécurité ou dans le domaine de la gestion de cette institution au quotidien?
Merci Chantal. Ce que je vous propose effectivement, c'est de balayer la démarche de la gendarmerie pour implémenter de l'intelligence artificielle dans ces process et de savoir d'où ça vient et comment on le fait. Je commencerai par ma conclusion parce que souvent j'oublie ma conclusion, donc de la faire en introduction c'est souvent plus facile et je reprendrai un peu ce qui a été dit. N'ayez pas peur de l'intelligence artificielle. Quand je dis cette phrase, c'est pas une phrase gratuite pour autant. N'ayez pas peur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous en avez peur, avec le retard qu'on a aujourd'hui, on sera totalement asservi à l'intelligence artificielle par des entreprises qui ne sont pas françaises, qui ne sont pas européennes. On a besoin de l'écosystème industriel français, on a besoin d'un écosystème qui s'engage dans la voie de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est fondamental pour des questions de souveraineté économique et pour des questions de maîtriser notre futur. La deuxième considération par rapport au fait de ne pas avoir peur, c'est une considération d'effort, c'est l'effort de la connaissance. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une discipline qu'on lit dans les magazines, c'est une discipline, comme ça a été dit tout à l'heure, qui est mathématique. Et dès qu'on parle mathématiques, on comprend bien mieux les problématiques de biais, on comprend bien mieux les enjeux de fonctionnement de l'intelligence artificielle, ses limites comme ses opportunités. Et ça me paraît fondamental. Donc, vraiment garder ces deux aspects, ne pas avoir peur d'intelligence, ça implique effectivement d'avoir une posture offensive, de ne pas être asservi à des sociétés qui viendraient, je dis d'ailleurs, mais on a l'impression que ce n'est pas ces extraterrestres, mais qui viendraient d'outre-Atlantique ou du continent asiatique, et faire l'effort de la connaissance. Alors pourquoi la gendarmerie s'est intéressée à l'intelligence artificielle? Bien, il y a quatre raisons à ça, j'ai envie de dire. La première des raisons, c'est que c'est un enjeu de souveraineté. Les activités régaliennes, on a choisi de ne pas être asservi. On a des activités de régaliennes, de protection des populations, de protection de l'individu, si on ne veut pas que ce soit effectivement des grandes sociétés du numérique qui gèrent cette protection des individus comme de la population, eh bien, on a intérêt à s'y engager pour ne pas subir effectivement ces grands chambardements. Je distingue la protection de la population de la protection de l'individu. Ça veut dire quoi, la protection de la population? Ça veut dire la protection de notre modèle démocratique et de notre vie en société. La protection de l'individu, c'est la protection des libertés individuelles. Et là encore, c'est l'exercice de la gendarmerie et des forces de sécurité intérieure, c'est de trouver ce point d'équilibre entre la protection de nos valeurs sociétales et la protection de l'individu dans sa caractéristique individuelle. Si on est sur des modèles économiques, cette quête d'équilibre et du bien commun pourrait y être différente. Donc, première raison, un enjeu de souveraineté, et puis un enjeu du fait que tout le monde utilise l'IA. Ce serait dommage que pour protéger les individus, on ne l'utilise pas. On a les JO bientôt. Il y aura beaucoup d'intelligence artificielle. Il y a eu un exemple sur le sport qui a été brillamment montré. Les journalistes l'utiliseront, tout le monde l'utilisera. Ce serait dommage que la sécurité intérieure ne l'utilise pas. La deuxième raison, c'est parce que notre adversaire à nous, c'est le criminel, il l'utilise. Il l'utilise sans réglementation, il l'utilise sans contrainte, parce qu'aujourd'hui, les outils sont largement à disposition. Donc nous, forces de sécurité intérieure, si on veut être capable de faire face à cette croissance considérable de la criminalité technologique, il faut aussi qu'on s'engage dans la voie de l'intelligence artificielle. La troisième raison, c'est que c'est complexe. Si c'est complexe, il faut la comprendre. On n'a pas droit, vis-à-vis de la redevabilité qu'on a par rapport aux citoyens, de ne pas comprendre les outils qu'on utilise. On ne doit pas les utiliser comme des boîtes noires. Donc il faut savoir ce qu'il y a sous le capot de l'intelligence artificielle. Et donc, il faut qu'on ait quelques-uns de nos personnels qui soient effectivement à même d'expliquer à la représentation parlementaire. On a la réglementation européenne qui s'est dessinée la semaine dernière. Eh bien, on a participé aux échanges sur cette réglementation européenne en matière d'intelligence artificielle pour défendre la protection du citoyen européen. Et la quatrième raison, c'est que ça peut être particulièrement utile aux gendarmes. Et là, ça va me permettre effectivement de dériver progressivement sur les applications. Mais je voudrais, avant d'évoquer les applications, dire qu'en matière d'intelligence artificielle, pour une société qui veut utiliser de l'IA, c'est pareil pour une entreprise comme une institution, il ne faut pas raisonner produit, il faut raisonner stratégie. Alors, on aime bien dire qu'on raisonne stratégie, mais rarement on le fait. Je crois qu'il faut vraiment mettre en place une stratégie. Ça veut dire quoi, une raisonnée stratégique? Ça veut dire mettre en place le cadre pour une utilisation responsable, de l'intelligence artificielle qui évitera des mésusages opérationnels. Et ces mésusages opérationnels, typiquement, ça a renversé le gouvernement néerlandais il y a quelques temps, parce que sur une des applications d'intelligence artificielle qu'ils utilisaient, il y avait un caractère discriminatoire notable par rapport à une catégorie de population. Le gouvernement a été renversé. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose qui doit être utilisé à la légère. Alors la stratégie, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a essayé d'avoir la vision la plus polysémique pour l'intelligence artificielle, en commençant par le volet formation. Il est important d'acculturer l'ensemble des gendarmes à l'intelligence artificielle. Le gendarme qui vous arrêtera sur le bord de la route, vous pourrez lui parler d'intelligence artificielle, puisque 93% d'entre eux ont suivi un MOOC dédié à l'intelligence artificielle. Bon, si jamais il ne répond pas tout de suite aux bonnes questions en IA, ne le fâchez pas, ça pourrait vous porter préjudice. Ensuite, on a une revue qu'on diffuse tous les deux mois, une revue bimestrielle Culturia. Pourquoi on fait cela? Parce qu'en fait, c'est expliquer l'intelligence artificielle dans le champ de la sécurité intérieure. C'est important de dire aux gendarmes, voilà comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour reconnaître des individus par leur voix, pour utiliser la reconnaissance faciale, dans quel cadre, quelle est la réglementation qui s'applique, est-ce que l'analyse prédictive est quelque chose de cohérent ou pas. Donc on lui explique l'IA dans son métier et on lui explique aussi ce qu'a dit Chantal tout à l'heure, Alan Turing, Rosenblatt, le perceptron, l'IA générative, les ChatGPT, etc., qui sont des connaissances beaucoup plus génériques. Et à l'autre bout de la chaîne, en matière de formation, on a créé une chaire IA et sécurité pour permettre à certains de nos officiers de suivre une formation doctorale en intelligence artificielle et pour permettre à des étudiants civils de travailler sur nos sujets au niveau doctoral en matière d'intelligence artificielle. Donc on est aux deux extrémités, de l'acculturation jusqu'à l'expertise scientifique, et on a des formations continues beaucoup plus légères entre les deux qu'on essaye de mettre en place. Je dis bien qu'on essaye parce que toute cette stratégie est compliquée à mettre en place, parce que tout le monde n'est pas prêt à l'intérieur d'une entreprise comme à l'intérieur d'une institution à voir ces process automatiques se mettre en place. Et encore une fois, ça exige un effort parfois assez considérable, un effort individuel. Formation, deuxième pilier, l'éthique, la réglementation et la conformité. Il faut absolument qu'on soit une entreprise, qu'on soit une institution, qu'on s'intéresse à ces sujets-là. La gendarmerie a publié sa charte éthique depuis 2 ans maintenant, des applications en intelligence artificielle, pour expliquer comment tout cela s'inscrit dans les valeurs de l'institution. Et j'ai aimé l'intervention tout à l'heure de notre intervenant précédent sur sa note en philo, parce que l'éthique, c'est d'abord de la philosophie, c'est pas du droit. Et il faut pas confondre les deux. On fait de l'éthique parce qu'en fait, l'IA dépasse l'état actuel de nos connaissances. Donc, on fait de l'éthique. Mais dès lors qu'on est régi par le droit, ce n'est pas la peine de faire de l'éthique, on a le droit. Et donc, on travaille aussi, on a travaillé sur la réglementation européenne, comme je vous le disais tout à l'heure, pour permettre aux forces de sécurité intérieure d'agir au profit et au bénéfice de la protection des populations. Ce n'était pas gagné, ce n'est pas totalement gagné encore, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais c'est un sujet qui est encore de discussion. Et c'est pareil pour les Jeux Olympiques, on a participé aux discussions pour implémenter de l'IA dans la vidéoprotection pour les Jeux Olympiques, avec toujours cette difficulté de l'acceptabilité sociétale, parce qu'il faut que ce soit accepté par la société pour que ce soit mis en place, mais aussi par l'impératif de protection par rapport à l'enjeu qui est celui des Jeux Olympiques. Et la conformité, c'est avoir une démarche d'approche d'assurance qualité par rapport à nos applications, en documentant nos applications, à la fois scientifiquement, juridiquement, et en permettant un audit indirect de notre code source. Pourquoi indirect? Parce qu'on ne veut pas le rendre public, ne serait-ce que parce qu'on ne veut pas expliquer aux criminels les outils et les codes qu'on utilise. On a aussi engager pas mal de partenariats, on valorise ce que l'on fait. Pourquoi le partenariat? Par souci de transparence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous associez l'intelligence artificielle et de l'autre côté la sécurité intérieure, vous voyez apparaître au milieu un acteur américain qui s'appelle Tom Cruise, non pas dans Top Gun, mais dans Minority Report. Et ça interroge sur la société de surveillance, on craint cette société de surveillance. On a l'exemple chinois qui nous effraie, donc on se dit que c'est possible et transposable. En réalité, la gendarmerie, les forces de sécurité intérieure ont besoin de communiquer pour bien expliquer qu'on n'est pas vers on ne va pas vers une société de surveillance, on va vers une société de protection des personnes. Et ce n'est pas un mot pour un mot, moi ça fait 27 ans que je suis en gendarmerie, la vie des gens ne m'a jamais intéressé, sauf s'ils sont criminels ou pédophiles ou autres, ou assassins ou meurtriers, là ça m'intéresse, mais on a le cadre judiciaire pour cela. On le fait pas gratuitement, on respecte un cadre judiciaire sous la direction d'un magistrat. Et le quatrième point, c'est tout ce qui relève de la recherche et du développement. C'est essentiel de s'engager dans cette voie-là. Là encore, pour une entreprise comme pour une institution, pourquoi ? Parce que ça nous permet d'avoir un temps d'avance. Il y a un an et un mois, de quoi on parlait ? On ne parlait pas du tout de ChatGPT, on parlait du métaverse. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout du métaverse, on parle de ChatGPT. Ça montre la volatilité de l'intelligence artificielle qui évolue vraiment à grande vitesse. Et je vais dire les larges modèles de langage pour ne pas faire que de la publicité à ChatGPT. Ces larges modèles de langage ne sont pas nés en décembre 2022. En réalité, ils sont nés déjà en 2017. C'est les réseaux de neurones profonds, récurrents, de type transformer, quand on s'intéresse à la recherche, on sait que ça va arriver et on peut s'y préparer. Ce qui a surpris, c'est le choc avec l'usager, où on a vu qu'aujourd'hui, tous les jeunes de moins de 30 ans utilisent ChatGPT tous les jours. La question environnementale, ils se la poseront peut-être dans quelques années, mais aujourd'hui, ils l'utilisent allègrement. Alors, recherche et développement, ça veut dire qu'on s'engage dans des travaux en interne. Pourquoi ? Parce qu'on veut la maîtrise de ce qu'on utilise afin d'en connaître les limites. Ça ne nous empêche pas d'aller vers des solutions industrielles, mais si on va vers une solution industrielle, on est capable de la benchmarker, de la comparer par rapport à ce qu'on souhaite réellement. Et ça, c'est tout un enjeu, parce qu'on peut nous vendre des solutions miraculeuses sur des jeux de données, on les applique sur nos jeux de données, elles ne marcheront pas du tout. Donc ça, c'est un enjeu. Qu'est-ce qui peut nous intéresser, nous, dans le champ des applications ? Tout ce qui a trait à l'authentification de l'information, les deepfakes, qu'ils soient audio, vidéo, images ou texte, on a développé en interne un détecteur de tout ce qui est réel et de tout ce qui est faux par rapport au sujet d'imposture. On travaille sur le speech-to-text. Le speech-to-text, c'est la transcription automatique de paroles. Donc là, on est plutôt à l'assistance aux gendarmes, plutôt que d'avoir des auditions qu'on écoute 10 fois, 15 fois, 20 fois avant de les retranscrire. On a un outil qui la retranscrit automatiquement et on a l'humain qui passe derrière, parce qu'il faut toujours avoir cette supervision de l'humain derrière, qui corrige, mais il n'a pas besoin d'écouter 20 fois la bande pour l'écrire, il ne peut l'écouter qu'une ou deux fois et de faire des corrections à la marge. On analyse les vidéos de masse, quand vous avez des heures de vidéos à analyser pour retirer quelques véhicules particuliers de cette vidéo, l'IA ira beaucoup plus vite que nous. Quand vous avez des milliers d'images pédopornographiques à analyser, faire de la reconnaissance faciale sur ces images-là, il vaut mieux que ce soit l'IA plutôt qu'un humain qui balaye des milliers d'images pédopornographiques et qui doit faire le tri entre du porno et du pédo. Je peux vous assurer que psychologiquement, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement agréable à faire. On travaille aussi sur tout ce qui est analyse prédictive des phénomènes de délinquance, sur les faits et pas sur les personnes. C'est d'essayer de savoir comment évoluent les cambriolages. Les cambriolages, c'est des séries temporelles. Donc, on est capable de projeter dans le futur ce qui pourrait arriver. À travers ces exemples, et on travaille aussi dans le champ cyber sur tout ce qui est détection de malware, détection d'intrusion dans nos systèmes informatiques. Vous voyez, on a un panel d'applications, et j'en ai d'autres encore, assez large. Mais ce que je veux vous dire par rapport à toutes ces applications, c'est que ne partez pas dans l'idée qu'il faut une usine à gaz pour débuter en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, quand on débute, elle ne commence pas à 100% de son potentiel. Elle commence peut-être à 60% de son potentiel. Ensuite, elle va croître, elle va s'améliorer et elle arrivera peut-être à 90 ou 95% de son potentiel. On n'a pas besoin d'avoir tout de suite des docteurs S intelligence artificielle. On peut commencer avec des apprentis. Il y a aujourd'hui des GitHub, c'est-à-dire des codes sources qui permettent d'aller très loin. Lorsque j'ai fait ma thèse, moi, c'était sur l'imposture vocale. Aujourd'hui, mais avec un GitHub, on fait beaucoup mieux que ce que j'ai fait en thèse. C'est assez frustrant parce que moi, je m'arrachais les cheveux avec des équations mathématiques. Aujourd'hui, c'est très facile d'utiliser des GitHub et de faire des choses extrêmement performantes. Après, il faut savoir un peu les comprendre quand même. Ça, c'est un autre enjeu. Et peut-être des choses, parce que je vois le temps qui s'écoule. Chantal, il ne faut pas hésiter à me dire, parce que je crois qu'il y a quand même une priorité aux questions, à me faire un petit 5 de la main dès qu'il ne me reste plus que 5 minutes. Je pense que c'est à peu près 5 minutes qu'il me reste. Bon, il y a tout ce qui relève de la maintenance prédictive qui est un enjeu pour nous. La maintenance prédictive, c'est essayer d'anticiper les pannes qu'on ne pouvait pas a priori anticiper. Changer un train pneumatique, on sait quand est-ce qu'on doit le faire. Changer les amortisseurs, on sait quand est-ce qu'on doit le faire. Changer les baquettes de frein, on sait quand est-ce qu'on doit le faire. Mais un véhicule de gendarmerie, c'est jamais conduit par la même personne. Ça ne roule pas que sur des routes, ça roule sur des chemins, ça roule dans les bois, ça peut rouler dans du sable. Donc ça a une usure qui est totalement irrégulière. De fait, on a des prises OBD, c'est des prises où le constructeur automobile accède à beaucoup de données sur l'automobile. Aujourd'hui, on ne fait plus de mécanique, on fait de l'électronique quand on dépanne un véhicule. Ben, toutes ces données, on peut les collecter, nous, pour faire de la maintenance prédictive et anticiper des pannes irrégulières de façon à ce qu'on n'immobilise pas le véhicule en étant surpris et en attendant 3 mois que la pièce de rechange arrive. On anticipe, on commande la pièce avant et du coup, notre véhicule d'intervention sera immobilisé peut-être qu'une semaine. Et donc, on voit bien que l'aspect logistique a un lien direct avec l'aspect opérationnel. Dans le domaine des ressources humaines, on a mis un chatbot qui aujourd'hui pourrait totalement être remplacé par une IA générative de type ChatGPT pour laisser du temps aux gestionnaires sur l'entretien individuel, l'entretien humain. Et le chatbot répond à toutes les questions qui sont dans nos textes. On n'a pas besoin d'humains pour répondre à des questions évidentes qui sont dans les textes. Autant avoir une machine qui le fasse, c'est des tâches chronophages, pas inutiles, mais consommatrices de temps. Et puis d'humain, lui, on le replace sur une tâche qui est plus noble de l'entretien qu'on peut faire avec lui et qu'il peut faire avec le gestionnaire. Donc voilà un certain nombre d'applications effectivement qu'on peut utiliser en IA. Et je reprends un peu ce qui a été dit aussi tout à l'heure, utiliser l'IA sur ce que vous envisagez, c'est-à-dire que l'IA, ce n'est pas la réponse à tout. Il faut définir le cas d'usage le plus précisément possible et ensuite penser à une solution d'IA. Il ne faut pas se dire l'IA va me résoudre tous mes problèmes de gestion des flux dans mon entreprise ou de maintenance dans mon entreprise. Non, c'est de quelles données je dispose, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça, et je vérifie effectivement le niveau de performance de mon IA avant de la mettre de façon opérationnelle dans le circuit. Peut-être un dernier point sur tout ce qui est les limites et les risques de l'intelligence artificielle. Je distinguerai peut-être les limites et les risques. Vous savez, l'intelligence artificielle a connu des hivers et des printemps durant entre 1956 et 2024. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'hivers parce qu'effectivement, on a résolu un problème très mathématique. Je ne vais pas insister dessus, mais on a réussi à résoudre la non-linéarité de notre monde. C'est-à-dire qu'on est dans un monde très probabiliste, on n'est pas du tout dans un monde déterministe, et le deep learning, l'apprentissage profond, a résolu cette difficulté. L'autre difficulté qui a été résolue, c'est la grande dimension. Le jeu de Go, c'est 10 puissance 600 combinaisons. On a 10 puissance 80 atomes dans l'univers. Plus jamais un humain ne battra une IA au jeu de Go. Donc l'IA a résolu aussi ce problème de grande dimension. Mais pourtant, peut-être qu'un hiver va arriver d'ici quelques temps sur quelle question, et ce sera peut-être l'une des limites de l'IA, sur la question environnementale, parce qu'on voit que c'est extrêmement consommateur. L'ICIDOL, son cerveau, il est à peu près comme le vôtre et comme le mien, il consomme à peu près 20 watts. Je ne vous cache pas que AlphaGo, ce n'est pas 20 watts qu'il consomme, c'est bien plus. Et les larges modèles de langage que tout le monde souhaite utiliser aujourd'hui sont extrêmement consommateurs d'énergie. Donc, on peut se poser plein de questions sur l'énergie, mais peut-être faut-il se poser la question sur les outils d'IA qu'on utilise, de façon à adapter l'outil à l'application qu'on souhaite utiliser. Et sur les risques, et j'en terminerai par les risques, l'IA n'est ni raciste ni sexiste. L'humain peut l'être, malheureusement, mais ce n'est pas l'IA. L'IA, elle est performante ou pas. Il y a toujours des biais dans les données. Il y a toujours des biais chez les humains. Si vous enlevez les biais, n'utilisez pas d'IA, ça n'existe pas, l'IA sans biais. L'IA, c'est un équilibre entre le biais et la variance des données. Parce que l'IA, en fait, elle classe des données. Donc, elle a besoin d'identifier ce qui différencie les données. Par contre, et en plus, pourquoi elle n'est pas raciste et elle n'est pas sexiste? Parce que ce sont des infractions. Le racisme, c'est une infraction. Il faut qu'il y ait une intention. L'intelligence artificielle n'a aucune intention. L'intelligence artificielle, ce n'est qu'une machine. Arrêtons de nous faire peur avec la science-fiction et avec tout ce qu'on peut lire à droite à gauche des uns et des autres. L'IA n'aura jamais de conscience. Elle pourra imiter une forme de conscience, mais elle n'aura pas de conscience et elle n'aura pas d'intention. Par contre, il y a un certain nombre de risques sur lesquels il faut se prémunir. C'est ce que j'appelle l'effet rhinocéros, vous savez, cette pièce de UNESCO où tout le monde finit par être pareil et perdre un peu son libre arbitre, perdre un peu son originalité, l'effet tunnel. Donc ça, c'est quelque chose contre lequel il faut se garder. Il faut se garder aussi de la fin de la capacité à théoriser. L'IA, c'est une discipline de l'observation, une discipline empirique. On l'utilise parce que ça marche et parce que ça marche très très bien. Albert Einstein a théorisé les ondes gravitationnelles en 1916. On les a observées en 2016. C'est le contraire de l'IA. L'IA, on observe d'abord et on a un résultat. Et entre les deux, on ne sait pas forcément totalement comment que ça se passe d'un point de vue théorique, mais ça marche. Et c'est pour ça qu'on l'utilise. Donc attention au niveau de notre éducation à ne pas perdre les fondamentaux que sont les mathématiques, mais ne perdons pas non plus la philosophie, la lecture, l'apprentissage des langues, etc. Et le dernier point en termes de risque, je dirais, c'est la perte de nos capacités cognitives. Moi, je dis de plus en plus aujourd'hui aux parents qui ont des jeunes enfants, perdez vos enfants dans la forêt en apprentissage supervisé, c'est-à-dire que vous gardez quand même un œil dessus. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils arrêtent d'utiliser leur GPS à tout va. Moi, avec des cheveux gris qui commencent à arriver, je n'ai pas de soucis, je ne vais pas perdre mes capacités cognitives, même si j'utilise mon GPS tous les jours, parce que j'ai appris à développer mon sens d'orientation. Mais d'ici 4-5 générations, je pense que nos capacités cognitives auront disparu. Ce sera pareil pour l'apprentissage des langues si aujourd'hui on n'utilise que des traducteurs automatiques. Ce sera pareil sur tout un champ de domaine de l'apprentissage si on ne fait confiance qu'à l'IA. Donc, on a vraiment des enjeux en matière d'intelligence au niveau de l'éducation. C'est, à mon avis, ça me paraît fondamental pour les années à venir. Voilà, Chantal, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que j'ai dressé un panel suffisamment large, à la fois sur nos applications et sur la perception de l'IA.
On a dépassé un petit peu le temps, mais je pense que ça valait le coup. Il y a pas de problème. Pour en revenir à notre introduction, hein, on a cherché à montrer effectivement des éléments positifs parce que aujourd'hui, ce qui paraît essentiel, c'est que vous lanciez, alors déjà, effectivement, ça a été mis en avant par le général Perrotte, il faut communiquer, expliquer, savoir comment ça marche, comprendre en quoi ce phénomène est en train de changer un certain nombre de choses dans nos façons d'apprendre, de travailler, de vivre. Donc ça, c'est absolument essentiel parce que sinon, on va pas comprendre ce qui se passe et on va se laisser dépasser par les événements. Donc c'est vraiment important, c'était important pour ça d'évoquer le sujet de l'IA aujourd'hui. Et l'autre sujet, ChatGPT aujourd'hui vous donne la possibilité d'essayer des choses. Et c'était très très intéressant que le général Perrotte rappelle qu'aujourd'hui vous avez des étudiants qui cherchent des alternances et qui peut-être seraient très très intéressés de venir vous apprendre chez vous à vous servir de ChatGPT, à poser des bonnes questions. Pour faire de l'intelligence artificielle, il faut des experts du métier, c'est vous. Et puis, effectivement, il faut des gens qui connaissent l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, vous avez des consultants, mais vous avez également plein d'étudiants qui sont disponibles pour venir travailler sur ces sujets-là. Voilà. Je laisse, du coup, s'il y a des questions, sachant qu'on ne voit pas trop... Ah voilà, c'est mieux. Y a-t-il des questions ?
Bonjour à tous. Étienne Westphal, donc je suis secrétaire général et membre du directoire de la SEM Euratechnologie. Euratechnologie, c'est un incubateur de start-up à Lille et dans les Hauts-de-France qui est singulier déjà parce que c'est une SEM, mais aussi parce que c'est un des plus anciens qui existe depuis 15 ans et qui est un des plus gros puisqu'on accompagne plus de 300 entreprises par an dans nos batchs d'incubation et d'accélération. Alors effectivement, je partage tout à fait le propos des intervenants, c'est-à-dire que le pari de l'IA, il faut y aller. D'ailleurs, il n'est pas si nouveau que ça. Il existe en effet déjà depuis quelques années et nos startups utilisent très largement cette technologie. On parle de ChatGPT, mais ça va effectivement ça va bien plus loin, beaucoup dans des solutions B2B à destination notamment de l'industrie, de la deep tech dans l'industrie, l'intelligence artificielle sur la maintenance des machines, etc. On voit aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui se créent sur l'intelligence artificielle. Il faut effectivement être prudent sur la technologie, puisqu'effectivement, il y a 18 mois, tout le monde parlait du métaverse. Aujourd'hui, la portée, on va dire, de la rupture technologique du métaverse dans l'économie réelle, on ne le voit pas tant que ça. Donc maintenant, aujourd'hui, on parle plus d'IA. Effectivement, peut-être que dans 2 ou 3 ans, on parlera plus d'une autre techno. Toujours est-il qu'il faut y aller parce qu'il y a un enjeu de souveraineté économique. C'est-à-dire que si on ne fait pas le pari de l'IA, d'autres le feront à notre place et en dehors du cadre, on va dire, du cadre juridique qu'on a en Europe. Donc c'est important de tenter ce pari. La question que je pose, c'est le pendant sur la sécurisation des données, mais c'est, finalement, ça ne concerne pas que l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en introduction de cette conférence, on a parlé de l'utilisation massive des données. Le corollaire de l'intelligence artificielle ou du déploiement des technologies dans les industries, mais aussi les TPE, PME, etc., c'est la question de la cybersécurité. On a parlé très brièvement on a effleuré le sujet au début. Aujourd'hui, peu de personnes le savent, mais 50 à 60% des TPE, PME qui se font cyberattaquer ferment dans les 18 mois. C'est plus de milliards d'euros de dommages aujourd'hui dans les entreprises. Et là, finalement, la courbe exponentielle, c'est la même que celle de l'utilisation des données qu'on a montré en début de conférence. J'ai été témoin aussi, par exemple, de la cyberattaque de la ville de Lille, où la ville de Lille a dû fonctionner pendant 6 mois à faire des cartes d'identité sur des process papier avec des téléphones qui ne fonctionnent plus. Et donc là, on parle en plus de grosses structures, mais je veux dire, les TPE-PME, les plus petites collectivités, sont encore plus vulnérables vis-à-vis de ce type de cyberattaque. Le sens de ma question, c'est de dire qu'à côté de tous ces progrès technologiques, il faut aussi que toutes nos entreprises, toutes les EPL, toutes les collectivités soient sensibilisées au sujet de la cyberattaque, des cyberattaques, au sujet de la cybersécurité et finalement soit cybersécurité by design, c'est-à-dire oui au pari technologique, mais sensibiliser les organisations pour que cette surutilisation des données dans nos organisations ne soit pas des sources de vulnérabilité ensuite pour nos organisations.
Alors, je sais pas exactement qui d'entre nous va pouvoir répondre à l'ensemble des questions que cela pose sur la cybersécurité. Moi, j'aurais juste un premier tout petit bout de réponse, qui est que la semaine dernière au Sénat, il y avait un colloque sur l'intelligence artificielle qui a été organisé. D'ailleurs, je pense qu'il va être diffusé sur Internet probablement. Et c'est vraiment, prenez le temps si le sujet vous intéresse d'y passer quelques heures. Et le sujet, la problématique de la cybersécurité et d'ailleurs de l'intelligence artificielle au sens large dans les collectivités locales et dans tous les organismes qui tournent autour des collectivités locales a été évoqué à plusieurs reprises par des intervenants. C'est vrai qu'on a un énorme enjeu aujourd'hui de travailler sur ces sujets-là. Le monde du privé s'y est mis parce qu'il n'avait pas le choix, parce que peut-être qu'il y a une plus grande mobilité, une plus grande capacité à aller chercher des compétences que dans les collectivités locales. Mais c'est vrai que c'est un énorme enjeu. Et il y a quelques sénateurs qui ont entendu ce message qui a été formulé à plusieurs reprises. Bon, après, c'est un temps qui n'est plus... qui n'est plus tout à fait celui qu'on est capable de gérer. Après, Alain, Patrick, je pense que sur la cybersécurité, vous avez des choses concrètes à évoquer.
Je vais vous donner un exemple. L'un ne va pas sans l'autre, quoi. On n'a pas cherché... on s'est développé dans le monde du sport, mais ça aurait pu être tout autre chose. Depuis l'an dernier, on supervise l'intégralité des stades de Ligue 1 en France et cette année également de Ligue 2. Et on a même accès à des stades partout sur la planète. Et en fait, pourquoi on nous a confié les caméras qui filment tous ces terrains 24 heures sur 24, puisque ces caméras ne sont pas démontées, c'est parce qu'on est certifié 27001. Donc voilà, le fait d'accéder à la donnée, si vous ne pouvez pas certifier que vous travaillez correctement, l'un ne va pas sans l'autre. mes équipes, ça ne leur viendrait pas à l'idée de vous dire comment va se positionner l'équipe de je ne sais trop qui la veille au soir quand elle vient faire le positionnement au Parc des Princes. Et pourtant, on pourrait le faire. Vous voyez, ce n'est pas hyper techno ce que je suis en train de vous raconter. Mais voilà, à un moment, c'est des contrats de confiance. On a aussi des actions qu'on mène avec des organismes, enfin des organismes, ouais, avec la gendarmerie. Je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, mais ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes de sécurité qu'il ne faut pas non plus qu'on fasse d'IA.
Pour rajouter sur le propos, bon, effectivement, la cyber ne va faire que croître. On aura de plus en plus d'attaques. Là, on a les JO qui arrivent, on s'attend à des JO très, très, très cyber-attaqués. L'IA, c'est le remède et le poison. C'est-à-dire que, comme toute innovation, les criminels savent l'utiliser. Nous, on doit l'utiliser aussi pour contrecarrer ça. Il faut surtout que le côté clair de la force et la possibilité réglementaire, législative, de pouvoir utiliser l'IA pour se protéger, parce que ça va être un enjeu. Et ce qu'il faut aussi intégrer, c'est que le criminel cyber démultiplie ses cibles. C'est-à-dire qu'avant, on était j'ai caricaturé, hein, sur le site de la CIA, sur le site de la DGA, sur des grands sites comme ça. Aujourd'hui, on est dans les hôpitaux et on fait du ransomware dans les hôpitaux, dans les mairies. Donc, ça arrive effectivement partout et de masse. Moi, je voudrais, par rapport à la question et dans laquelle, enfin, à laquelle j'adhère totalement, hein, l'IA et la cyber, c'est totalement lié. Mais comme l'IA est liée à l'espace physique, le cyber, c'est un espace, l'IA, c'est un outil, que ce soit dans l'espace physique ou dans l'espace cyber. Mais derrière cette question, moi, je voudrais insister sur l'aspect résilience. Parce qu'effectivement, on peut aller sur le tout techno et on aura des mondes de plus en plus connectés, donc avec des failles de plus en plus importantes. Mais il faut absolument que les services de l'État, notamment celui auquel j'appartiens, on ait cette capacité de résilience, parce que quand tout ira mal, on se retournera soit vers les collectivités territoriales, soit vers l'État, qui devra effectivement continuer à assurer la continuité du pays dans les meilleures conditions. Donc attention au tout techno, parce qu'effectivement, des attaques cyber pourraient neutraliser un certain nombre de choses. Gardons une capacité de résilience derrière.
Allô ? Oui, moi je me lance. J'ai bien entendu le message de lancez-vous et n'attendez pas et montez à bord. C'est pas si compliqué que ça, etc. Situation, moi je suis administrateur dans une société publique locale d'eau. Le cas est très clair, qui est on remonte les consommations de 10 ou 20 000 compteurs tous les jours. On remonte les consommations des gros tuyaux et des usines toutes les heures. On se dit, on en parlait ce matin, qu'il y a 15 à 20% de pertes qu'on peut analyser manuellement, ce qu'on fait depuis la nuit des temps, mais peut-être qu'on peut gagner beaucoup en pertes en faisant de l'analyse un petit peu plus intelligente par des machines. Ça, c'est la situation. On voit bien le potentiel, on voit bien le cas d'utilisation. Complication, on est petit. L'eau, ça vaut cher, mais pas si cher que ça, et donc on va pas gagner des centaines de millions dans cette affaire-là. Quelle est votre solution ? Est-ce que je prends un doctorant ? Est-ce que je vais l'attirer vraiment dans une société de 50 à 100 personnes ? Est-ce que je prends un consultant ? Est-ce que je vais l'attirer aussi dans une société pour un enjeu modéré, somme toute ? Quelle est votre solution ?
Alors. Déjà, je prends la parole si vous me permettez. Déjà, le sujet, c'est de poser le problème. Bon, alors, je comprends que effectivement, il faut qu'il y ait une problématique. Hein, et je dirais que le cas que vous évoquez, il est très intéressant. Hein, c'est un bon point de départ parce que vous dites, finalement, c'est des choses qu'on sait faire à la main. Ça veut dire que vous pouvez commencer à travailler, mais ça veut dire que vous maîtrisez en fait les informations que vous avez en entrée et celles qui sont produites en sortie. Donc en fait, l'intelligence artificielle, elle va vous permettre soit d'aller plus loin, soit d'aller plus vite. On va poser le problème au départ comme ça. Je ne sais pas, mais ce serait vraiment intéressant d'approfondir le sujet. Est-ce que aujourd'hui, compte tenu des données que vous avez, l'utilisation de quelque chose d'aussi simple que ChatGPT, alors juste ChatGPT, il y a deux versions. Hein, il y a la version gratuite qui est celle qu'on a tous testé et que vos enfants utilisent en 12 pour faire leur devoir. Et puis, il y en a une payante qui a deux qualités, qui est que d'abord, vos données restent vos données et vos résultats ne partent pas sur Internet. Ça, c'est quand même très, très important. Et puis, vous pouvez effectivement inventer quelque chose qui est vraiment votre environnement à vous. C'est vraiment c'est les annonces qui ont été faites en novembre. Et bon, encore une fois, là, on est sur un environnement, on va dire, c'est un bac à sable, hein, on essaye, etc. Ce que vous allez pouvoir commencer à faire, c'est poser des questions à l'IA en disant, est-ce que avec les données que j'ai, tu es capable de me créer un modèle prédictif ? Et franchement, alors, j'avais prévu de passer une petite démo parce que... Mais je craignais qu'on manque de temps, mais finalement, on en aurait peut-être eu assez. Mais une petite démo où on a travaillé, nous, sur un fichier, c'était dans le logement social, hein, pour prévoir des incidents de paiement, etc. Et on a été capable de fabriquer assez facilement une équation prédictive de pertes. On fait pareil, nous, on intervient beaucoup dans le monde agricole. On travaille sur la consommation d'énergie dans les silos, enfin des choses comme ça. Donc des choses qui sont relativement simples. En fait, ce qu'il faut pour attaquer là-dessus, mais encore une fois, ça ne va pas vous emmener bien loin. Ça va vous emmener à voir si ça vous intéresse, si ça vous permet de résoudre des problèmes. Ça va probablement être le cas. Moi, c'est mon opinion, mais peut-être que vous allez arriver à la conclusion inverse. Le sujet, ça va être donc derrière de poser une vraie problématique. C'était ce que Alain expliquait. C'était finalement demander à l'informaticien d'utiliser le même langage que l'expert du métier pour poser une question à ChatGPT. Alors, ça peut être qui l'intermédiaire ? Soit vous avez dans vos collaborateurs quelqu'un qui s'est déjà intéressé à ça, qui a commencé à travailler là-dessus, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir une agrègue de maths pour poser, pour commencer à travailler.
Ça tombe bien.
Ça tombe bien. Hein. Pour commencer à tester ça. Ou alors, effectivement, moi, je reviens sur le fait qu'aujourd'hui, vous avez des étudiants, vous avez des incubateurs, etc., qui sont prêts à travailler. Il y a un autre sujet, moi, qui me paraît important, et ça tombe bien, parce que là, aujourd'hui, on est dans un événement organisé par une fédération, c'est aussi votre capacité à vous mettre en réseau pour résoudre des problèmes. Ça peut partir aussi de... Ça peut aussi commencer comme ça. On voit que tout ce qui se produit aujourd'hui et qui accélère l'usage de l'intelligence artificielle vient très souvent de la mise en réseau d'un certain nombre d'acteurs. Est-ce que vous...
Oui, moi, je peux peut-être ajouter un point, puisque vous êtes en région PACA. Donc effectivement, les apprentis, c'est une solution pour débroussailler le problème, parce que ça permet de mieux définir votre problème et trouver une solution potentielle à votre problème. Société de consulting, bien entendu, ça peut aussi vous aider. Et parce que vous êtes en PACA, il y a le pôle SCS. Vous pouvez contacter Fabienne de Thomas, qui est dans ce pôle-là. C'est un pôle de compétitivité qui finance des projets comme les vôtres et c'est un challenge pour des entreprises de résoudre cette problématique-là et de vous apporter une solution. Donc aujourd'hui, il y a des vraies sources de financement par rapport à des problématiques comme ça. En plus, ça ne vous coûterait pas forcément grand-chose. Il faut bien définir le sujet, aller chercher la source de financement et je suis sûr que vous pouvez résoudre ce problème. Après, je connais une start-up, ESACO, qui a traité ce genre de choses, parce que les fuites, et elle est dans la région là-bas aussi, les fuites, c'est de la série temporelle, en fait, donc c'est quelque chose que vous pouvez empêcher, avec l'enjeu que vous avez bien mentionné, hein, c'est est-ce que c'est rentable ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut dimensionner, mais je crois que si on pouvait quand même éviter les fuites d'eau, ce serait pas mal dans la période actuelle.
Oui, très, très important aussi la capacité de trouver des financements. Moi, je vous en ai parlé tout à l'heure exprès quand j'ai parlé de Fontenay. Il y a la possibilité effectivement d'aller trouver de la subvention ou du financement sur des projets de ce type-là. Alors, d'autant plus dans votre domaine puisque c'est des applications relatives à l'environnement.
Oui, bonjour, je Augustin, président Marne-et-Gondoire Aménagement en Seine-et-Marne. Juste une question de curiosité personnelle et ou, voire journalistique. C'est hacker. Est-ce qu'on a une vague idée du profil? Enfin, c'est des génies, des petits génies chez eux. C'est des officines de 5 personnes. C'est des laboratoires complets. On m'a dit que par exemple Pune en Inde, c'était un peu le cas. Enfin, est-ce qu'on a des indications là-dessus? J'ai rien vraiment lu dans la presse qui donnait un peu un panorama de ces cybercriminels.
Alors, je peux peut-être répondre à la question. En fait, il y a tout. Je ne sais pas si vous connaissez l'escroquerie à la romance, vous savez, c'est des fausses annonces de personnes qui tombent faussement amoureux de vous et puis qui vous escroquent de l'argent. Ça, c'est une criminalité subsaharienne hein, d'Afrique, où effectivement, c'est des gens avec très peu de moyens qui sont capables d'escroquer beaucoup d'argent. À l'autre bout de la chaîne, on a la criminalité organisée, les faux ordres de virement, l'arnaque au président, c'est une criminalité organisée qui vient plutôt d'Israël. Donc on a vraiment le pendant entre des groupes criminels qui sont très organisés et puis, j'ai envie de dire, monsieur tout le monde, un peu débrouillard. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, les outils sont à disposition. Vous voulez porter atteinte à la réputation de votre voisin, vous prenez son visage, vous en faites une deepfake, vous le mettez sur une vidéo porno ou pédopornographique. Et le lendemain, à 6h, il aura les policiers ou les gendarmes qui viendront toquer à sa porte. Donc, ces outils-là sont à disposition. C'est là tout le risque et la difficulté par rapport à ces sujets. Donc, la question, c'est que le cybercriminel, ce n'est pas un génie. Ce n'est pas forcément un délinquant de la très grande criminalité, mais ça peut l'être. Et ça peut être votre voisin d'appartement, par exemple. Il y a tout, malheureusement.
Bonjour, Rudy Alexandre. Donc, je suis le DSO de la Seine-Saint-Martin. Je vais revenir un peu plus dans notre métier. Est-ce que l'AI peut aider les élus à construire leur développement de territoire dans le cadre d'un plus? C'est-à-dire qu'en recueillant toutes les données de l'INSEE, etc., et dire quelle stratégie d'aménagement est la plus adéquate sur 10, 15, 20 ans et leur permettre de s'orienter plus efficacement sur l'aménagement d'un territoire.
Alors, je me suis posé la même question, en fait, l'autre jour. Je ne sais plus ce que je regardais. Oui, si, c'était sur les PLUI. Je me disais, mais finalement, est-ce que... je ne sais pas où vous en êtes dans vos collectivités sur les PLUI, mais souvent c'est quand même très très composite hein, parce que chaque collectivité amène son petit bout, etc. Et trouver une cohérence là-dedans, je me disais que peut-être l'intelligence artificielle pourrait aider les rédacteurs à rendre la lecture un petit peu plus fluide et effectivement aligner la partie donnée, etc. Alors, nous, on a fait quelques expérimentations sur, effectivement, de la création de données. Alors, pas sur ces sujets-là, mais de la création de données en allant chercher des données sur des bases, notamment toutes les bases qui sont mises en ligne par l'État, hein, plus quelques fichiers internes. Alors, c'était pas dans un contexte de collectivité locale, mais... Autant qu'ailleurs, ça ne va pas économiser. Enfin, vous ne pouvez pas demander à ChatGPT de vous produire le PLU de votre commune. Mais en revanche, le gain de temps sur la production de ce genre de synthèse, mais à condition d'être vraiment un expert de son métier et d'être capable de lui dire « là, j'ai besoin de tel type de données, etc. » Donc, encore une fois, ça veut dire que c'est aux élus, aux fonctionnaires territoriaux de poser les bonnes questions. Mais sur la production de documents, il y a un vrai gain de productivité. Et effectivement, derrière, ça vous donne quelque chose qui n'est pas du tout achevé, mais vous avez quand même gagné quelques jours de travail et derrière, vous allez faire de la relecture, de la remise en forme, etc. Quoi. Enfin, en tout cas, oui, il y a de quoi creuser dans ce domaine d'application, à mon sens. C'est bon. Il y a. Bah écoutez, en fait, je ne sais pas conclure en quelques mots hein, ce qu'on vient de se dire, parce que c'était très riche, très différent, etc. Un peu frustrant aussi, parce qu'il y a peut-être des sujets sur lesquels on aurait tous aimé passer un petit peu plus de temps. Le général Perrotte le disait, hein, ce qui est important, c'est de comprendre le mieux possible le monde dans lequel on évolue. Bon, c'était à ça qu'on a voulu contribuer aujourd'hui. Je remercie Perrine pour son aide pour organiser tout ça et l'occasion qui nous est donnée. Et puis, ben, j'espère que ça aura répondu à un tout petit peu à vos questions. Voilà. À bientôt, j'espère. Au revoir.
Au revoir. Merci.
Et merci beaucoup aux deux participants.
On vous informe que la plénière politique aura lieu à 16h au théâtre Debussy et elle est dédiée à la prospective. Merci à tous pour votre participation. Bonne journée. We'll be right back.